France Inter.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info, la télé, et en partenariat avec le journal Le Monde. Le Bataclan à Moscou, voilà résumé ce qui s'est passé vendredi en Russie. Immédiatement, les dirigeants du monde entier ont condamné cette attaque terroriste et mis de côté les accusations de Vladimir Poutine qui tente d'y voir un lien avec son ennemi ukrainien. Dans ce nouveau contexte géopolitique, comment l'Europe va aider l'Ukraine? Avec quels moyens militaires? Avec quels moyens financiers? Les Européens discutent, c'est important, mais le temps presse car les Ukrainiens continuent de perdre du terrain. C'est en tout cas un drôle de moment politique qu'on va analyser, qu'on va décortiquer avec Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, en charge de l'industrie, en charge de la défense aussi. Il est notre invité ce midi dans Questions politiques, en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter.
Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec moi pour vous interviewer, Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Et on a le plaisir d'accueillir Audrey Goutard ce dimanche. Bienvenue Audrey.
Bonjour, merci.
De France Télévisions. Elle est absolument l'image de la semaine, j'en parlais à l'instant, celle qui s'impose à toutes les autres. L'image du Crocus City Hall pris dans les flammes après la très violente attaque terroriste de vendredi dans une banlieue de Moscou, attaque rapidement revendiquée par l'État islamique, par l'une de ses branches, la branche afghane. Ce dimanche est une journée de deuil national en Russie après un lourd bilan de 133 morts, en tout cas pour ce midi. Thierry Breton, d'abord, quelle est votre réaction à ce qui s'est passé vendredi soir en Russie?
Ma réaction, en tant que commissaire européen, elle a été exprimée par celui qui est habilité à parler pour nous tous sur ces questions. C'est le haut représentant, Josep Borrell, qui a dit, vous l'avez rappelé du reste, comme un nombre très important de chefs d'État et de gouvernement de la planète, mais qui a dit ce qu'il fallait dire. C'est une tragédie absolue, c'est un drame. C'est vrai que ça nous touche, nous, évidemment. En France, tout particulièrement, c'est des innocents qui étaient venus dans un lieu de culture.
Assister à un concert.
Et qui se font assassiner, mitrailler. C'est absolument une horreur. Évidemment, notre compassion, et puis aussi notre compassion, évidemment, avec les parents des victimes. Il y a aussi beaucoup de blessés. Et puis le peuple russe. C'est important qu'il y ait un jour de deuil aujourd'hui.
Audrey Goutard.
Alors, est-ce que, selon vous, cet attentat affaiblit Vladimir Poutine, qui a été élu il y a une semaine triomphalement président de la République? Est-ce que vous pensez qu'il peut essayer de faire porter la faute sur l'Ukraine et, au fond, intensifier l'offensive en Ukraine parce qu'il est mis à mal dans son pays?
Madame Fressoz, on est dans une autocratie. Donc, on sait que les narratifs utilisé par les autocrates, et en particulier par Vladimir Poutine, qui est sans doute l'un des autocrates les plus chevronnés, hélas, que nous ayons actuellement sur la planète. C'est effectivement, vous l'avez rappelé à l'instant, un vrai problème pour lui. C'est un échec. C'est un échec, d'abord, de ses forces de sécurité, le FSB. J'ai cru comprendre que les Américains avaient indiqué, publiquement, et en particulier à leurs ressortissants, que ce risque tchétchène existait. Il existe, bien sûr, depuis longtemps, en Russie, qu'il était devenu plus vivace ces derniers temps. J'ai cru comprendre également que Vladimir Poutine, peut-être tout à son élection, même si celle-ci semblait ne pas laisser trop
Il a été réélu la semaine
dernière. Quant au résultat, 86%.
88%.
Voilà, donc il va utiliser maintenant ce narratif pour essayer de retourner la situation. Et c'est intéressant, si je puis dire, parce qu'évidemment il y a une revendication immédiate de l'État islamique. On sait que lorsqu'il revendique depuis tristes histoires des attentats, c'est toujours la réalité. L'État islamique a donné des détails précis, donc il n'y a sans doute pas trop de doutes sur l'origine. Mais voilà, il va essayer maintenant d'utiliser ça, et on le sait que sa préoccupation majeure aujourd'hui, son obsession même, puisqu'il est passé du grade d'opération spéciale désormais
au mot de guerre.
Revendiqué. On se souvient du reste que certains sont en prison aujourd'hui pour l'avoir utilisé en Russie.
Mais ça veut dire quoi ? Vous l'interprétez comment,
qu'évidemment,
le fait qu'il ait changé de vocabulaire ?
On l'a vu. Il a commencé à essayer de désigner indirectement pour l'instant, parce que quand on dit qu'il y a un véhicule qui a été stoppé à équidistance entre la frontière biélorusse et la frontière ukrainienne, ça voulait dire que les auteurs de l'attentat courir vers l'Ukraine, comme il l'a dit. Voilà, donc ça veut dire que on peut s'attendre à tout avec lui, de toute façon, on le sait. Donc, cela veut dire que pour nous, il faut être encore plus vigilant qu'auparavant. On a du reste critiqué, on a commenté, en tout cas, les propos du président de la République dernièrement qui nous indiquait à nous tous, Européens, qu'il fallait surtout pas baisser la garde. Et on voit que c'est absolument nécessaire. Personne ne pouvait anticiper ce qui vient de se passer, bien entendu. Mais ça veut dire que pour nous, Européens, il faut évidemment accélérer par tous les moyens notre capacité de soutenir l'Ukraine, y compris peut-être, parce qu'il peut, tout est possible, on le sait. C'est la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky a réagi très rapidement,
hier soir,
à juste titre sans doute, pour dire que il n'y avait rien à voir avec ça, parce qu'on connaît Vladimir Poutine, et on connaît comment il va essayer de retourner la situation. En tout cas, il faut nous y préparer.
Alors, une question encore sur Moscou.
Oui, tout à fait. Alors, revenons à cette attaque terroriste. Le groupe État islamique l'a revendiqué. Le groupe État islamique menace aussi l'Europe. Clairement, il y a eu des interpellations à la fin 2023 de ces mêmes membres de ce groupe État islamique Khorasan, donc qui vient d'Afghanistan. Des interpellations en Autriche, des interpellations en Allemagne. L'Europe est également menacée. Est-ce qu'on est mieux préparé aujourd'hui qu'on ne l'était lors des dernières grandes vagues d'attentats, je pense à 2015 ? Est-ce que l'Europe est mieux préparée à affronter le risque d'une nouvelle vague d'attentats islamistes ?
On est parfaitement, hélas, conscient de tout cela. Nos services de renseignement, pas uniquement au niveau français, au niveau européen, sont évidemment très alertés sur tout cela. Il y a évidemment de la coordination entre nous, évidemment. Et donc oui, bien entendu, les échanges sont extrêmement intenses.
Est-ce qu'on a fait des progrès ?
Mais on fait, je dirais, hélas, bien sûr, on fait toujours des progrès, parce que on travaille mieux ensemble, on échange davantage. Dans ce domaine, le renseignement est extrêmement important. Mais oui, voilà, on est dans un monde extraordinairement difficile,
avec les Russes,
dangereux, dangereux. Je ne vais pas vous dire ça, mais on est dans un monde. Je parlais entre Européens, évidemment. On est dans un monde extrêmement dangereux. La menace terroriste, elle est toujours là, et par rapport à ce qui se passe.
Mais savoir, c'est si
il se passe aussi ce
le niveau de menace, il a augmenté ou pas ? C'est ça, en fait, que les Français ont envie de
savoir. Mais je n'ai pas à vous le dire moi-même, bien entendu, vous le comprendrez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la coordination est très intense. Voilà.
La coordination entre les 27 ?
Mais bien sûr, bien sûr.
Je voudrais qu'on revienne à la version classique, maintenant, de questions politiques, avec vos images de la semaine, au-delà de ce qui s'est passé à Moscou. Qu'est-ce que vous avez observé, vous en particulier, Thierry Breton, dans l'actualité de cette semaine ? Qu'est-ce qui vous a marqué ?
Alors, c'est une image que j'ai retenue, qui a eu lieu jeudi. Voilà, on était avant donc la tragédie dont on vient de parler. C'est un sommet qui s'est tenu à Bruxelles. On a l'image, je crois, qui s'affiche à l'écran.
Qu'est-ce qu'on voit ?
Qui est un sommet du nucléaire, qui a réuni à Bruxelles 50 pays, dont 25 chefs d'État et de gouvernement, sur le nucléaire. Alors, je l'ai retenu, non pas parce que...
Parce qu'on voyait Macron, pas seulement.
Non pas parce que Bruxelles est le siège de l'Euratom, c'est-à-dire, c'était ce qui fallait fonder notre Union, il y a déjà fort longtemps, autour de l'énergie atomique, mais parce que ça signe, évidemment, un retour important de l'importance du nucléaire dans notre combat pour décarboner notre production d'énergie, mais aussi pour augmenter notre souveraineté, notre résilience, notre autonomie stratégique en matière de production d'énergie et d'électricité en Europe. Rien que pour atteindre les objectifs de 2050, donc d'être un continent qui n'émettra plus de carbone, de CO2, il va falloir doubler la production d'électricité, donc doubler la production de centrales nucléaires en Europe. Et puis le lendemain, ça c'était le jeudi, évidemment, le président de la République y était, il y a eu un travail très important qui a été fait par la France pour réunir, évidemment, ses chefs d'État, et puis aussi par nous et par moi-même, à mon niveau, évidemment. Et Et le vendredi, c'était une réunion aussi très importante où un certain nombre de pays se sont mis ensemble pour travailler à des petits réacteurs, on appelle ça des SMR, des tout petits réacteurs, 300 MW, 350 MW, donc qui permettraient donc, et très sécurisés évidemment, avec des évolutions technologiques majeures, et qui permettraient d'être des compléments aux énergies renouvelables. Voilà, donc ça veut dire que c'est une nouvelle façon de dire que l'Europe n'est plus naïve, l'Europe prend son destin en main, l'Europe avance, dire qu'il faut décarboner l'énergie, ça veut dire aussi qu'il faut croire en la technologie, en sa sûreté, sa sécurité, l'énergie nucléaire est une énergie sûre.
Je crois qu'on a compris, c'est parfait.
Et c'est quand même un sacré retournement sur l'Europe.
Incroyable, c'est un retournement incroyable. Lorsque je suis arrivé à la Commission, Madame Fressoz, on m'avait conseillé de ne pas utiliser le mot nucléaire, alors j'avais utilisé industrie de transition, énergie de transition décarbonée. Et puis, progressivement, le mot a été accepté.
Allez, toute autre image. Oui. Avec vous, Audrey Goutard, qu'est-ce que vous avez choisi ? Vous expliquez-nous, racontez-nous, montrez-nous.
J'ai choisi, écoutez, la cité de la Castellane et la visite surprise du président Macron dans cette cité. Alors, c'était dans le cadre d'une opération anti-drogue. J'ai trouvé que cette photo, regardez-la bien. On voit le président qui a l'air triste et consterné. On voit l'entourage de ce président qui a l'air triste et consterné. On voit cette femme avec son fichu rouge. C'est une grand-mère qui pleure devant le président. Et à côté, une toute petite fille qui a moins de 10 ans que le président tient par l'épaule. Et cette photo, pour moi, a représenté, en fait, cette déambulation et cette émotion qu'il y a eu lieu à ces moments-là où on aurait pu imaginer que les gens parlent de leurs problèmes de quartier, ils en ont parlé effectivement de la ghettoisation, etc. Mais très vite, on est arrivé sur les angoisses finalement des citoyens français, c'est les angoisses par rapport à la situation internationale. Donc ils ont évoqué l'Ukraine, ils ont évoqué le dérèglement climatique et cette femme évoque Gaza, les enfants morts. Elle part au départ des enfants morts dans les cités suite au règlement de compte à Marseille et puis, en parlant d'enfants, elle dit « Et puis, il y a Gaza ». Et là, le président lui répond « Mais Gaza, on essaye de faire ce qu'on peut, madame. On envoie des aides, de l'aide humanitaire. » Et elle dit « Mais c'est pas assez, il faut sauver ces enfants de Gaza ». Et en regardant cette petite fille juste à côté, eh bien, on s'est tous dit, nous, sur le plateau qui suivions cette déambulation, on s'est tous dit que cette petite fille, qui a à peine 10 ans, ressemblait beaucoup à tous ces enfants morts depuis octobre, enfants israéliens, enfants palestiniens. Et on voit bien que finalement, dans cette photo, on sent toute l'impuissance des pouvoirs publics face à un drame qui se déroule en ce moment au Proche-Orient.
Mmh, l'impuissance politique. Allez, on termine avec un ambitieux, avec vous, Françoise Fressoz.
Oui, mais ça quand même appelle aussi la notion de l'impuissance. Donc, c'est Bruno Le Maire qui est à France Inter lundi et qui fait la promotion.
Un petit sourire sarcastique, non ? Vous ne trouvez pas qu'il a un petit sourire particulier ? Non. Ok, c'est pas grave, je vous coupe plus, allez-y.
Il est donc à France Inter et il vend son 6e livre qui s'appelle La Voix Française. C'est le 3e livre qu'il écrit en tant que ministre de l'économie, mais cette fois, c'est pas un roman, c'est un livre-programme centré sur la présidentielle de 2027 et c'est au fond un cri d'alarme pour dire il faut redresser la France et pour redresser la France, pour la mettre au niveau des enjeux qu'on voit très cruciaux et très dramatiques, eh ben, il faut s'en prendre à l'État-providence. Alors, deux questions dans cette démarche, c'est est-ce qu'on peut prétendre se faire élire en 2027 sur la thématique de remise en cause de l'État-providence alors que les Français ont tellement peur aujourd'hui et qu'au fond on a fait beaucoup de quoi qu'il en coûte ? Et deuxième interrogation, c'est ce même ministre est quand même aux prises aujourd'hui avec des déficits très importants qui dépassent 5% du PIB, une dette énorme et on voit bien que les solutions qu'il préconise c'est pas exactement celles non plus que lui autorise de faire Emmanuel Macron. Donc l'autre sujet c'est combien de temps ça va tenir l'attelage et ça augure quand même d'une fin de quinquennat extrêmement difficile parce que cette fin de quinquennat elle va être effectivement dominée par le niveau des déficits en France et l'idée qu'il faut quand même réduire la dépense publique.
Les Européens ont très clairement un message d'unité et de détermination lors de ce Conseil afin de soutenir l'Ukraine, je cite nos conclusions, aussi longtemps qu'il le faudra et aussi intensément que nécessaire.
Thierry Breton, comment va l'Ukraine ? Est-ce qu'elle est sur le point de tomber ? Est-ce qu'au moment où on parle, c'est une question de jour ?
Non, je crois que personne ne peut dire ça. L'Ukraine continue à se battre avec énormément de courage. J'ai rencontré du reste le Premier ministre ukrainien qui était à Bruxelles il y a 3-4 jours. On a fait un point assez précis de l'état de la situation.
Et donc
les Ukrainiens se battent. Ils ont du reste développé, ils commencent à développer des segments très importants de leur industrie d'armement. Je pense en particulier aux drones. Ils construisent des centaines de milliers de drones. Je dis bien des centaines de milliers de drones. Maintenant, ils sont extrêmement actifs. Ils ont besoin de notre soutien pour ce faire. Non seulement, évidemment, pour leur fournir de l'armement, des munitions, mais aussi pour les aider à augmenter très rapidement leur capacité à les produire eux-mêmes. Et c'est exactement ce que vient de dire le président de la République. Donc,
mais ces armements, ces munitions dont vous parlez à l'instant, ils ne sont pas assez nombreux pour aider vraiment l'Ukraine au niveau dont elle a besoin aujourd'hui.
Mais encore une fois, j'en ai parlé avec le Premier ministre. D'abord, l'Europe, l'Union européenne, n'est pas le seul soutien à l'Ukraine. On sait que...
Mais elle ne livre que 1 million d'obus en ce moment, par exemple. Ce n'est pas suffisant, 1 million. Mais, vous le reconnaissez ou pas, Thierry Breton ?
Ce n'est pas suffisant, mais c'est ce qui avait été promis. Et c'est ce qui a été promis. C'est très important, la mécarde, ce que je vais dire à l'instant. Les chefs d'État et de gouvernement avaient promis, il y a un an exactement, de fournir, de livrer 1 million d'obus à l'Ukraine. Des gros obus, hein, c'est ce qu'on appelle les obus d'artillerie, dits 255. Cette promesse a été tenue. Elle a été tenue comment ? D'abord parce qu'on a multiplié par deux, je dis bien par deux, en 10 mois, notre capacité de production de ces obus en Europe. 13 pays. On a maintenant 81 usines qui travaillent. Et qui travaillent, je peux en porter témoignage, je les vois toutes. On a une équipe maintenant dédiée, en contact avec eux tous les jours. Pardon de cette comparaison qui n'est pas raison, mais j'ai mis en place exactement le même système que j'avais mis lorsque j'ai monté très rapidement la base industrielle de vaccins, et on a réussi à le faire. Mm-hmm. On a multiplié par deux pour passer à 1 million de capacité de production de ces obus. On était à 500 000 il y a un an. Les États-Unis étaient à 300 000, hein, pour vous donner les ordres de grandeur. On est maintenant à plus d'un million, puisqu'on était à 1 million fin janvier.
Mais l'Ukraine a besoin de 2 millions d'obus, comment
on fait ? Oui, et donc on est maintenant, on a sélectionné maintenant 31 projets qui sont cofinancés maintenant par l'Union européenne. Je rappelle qu'on a fait voter une loi au Parlement européen. 80% des députés m'ont donné les moyens d'aller financer en amont des usines d'armement. Vous vous rendez compte du changement de paradigme dans lequel nous sommes. On a annoncé donc ces usines maintenant. Grâce à ça, dans les 10-12 mois qui viennent, on va remultiplier par deux la capacité de production.
Mais 10-12 mois, c'est très très long.
On sera donc, oui, mais
est-ce que l'Ukraine résistera jusque-là ?
On sera donc, encore une fois, à 2 millions donc, d'ici maintenant à 2025. Mm-hmm. Et on va continuer à accélérer. Entre-temps, mais il y a d'autres pays qui fournissent. Il y a bien sûr les États-Unis, mais il y a aussi la Corée, il y a là aussi
États-Unis,
la Turquie.
Les États-Unis, c'est compliqué en ce moment.
Oui, mais la Corée, je parle en particulier de la Corée du Sud, il y a la Turquie, il y a beaucoup d'autres pays qui produisent et qui donc qui vont fournir, entre-temps, évidemment, ce dont l'Ukraine a besoin. Donc, oui, on est vraiment dans cette course de vitesse. Mais voyez-vous, ce qui se fait, ce qui s'est fait sur le segment des munitions, c'est pas assez, mais faut voir d'où on vient et faut voir où on va. Donc, et on y va très vite. Et je veux en porter témoignage ici. Il faut le faire maintenant sur l'ensemble donc des industries de défense. Et c'est tout ce qui a été discuté et approuvé au cours du dernier Conseil, lorsqu'on a vu le président de la République en faire état lors de sa conférence de presse vendredi.
Audrey Goutard.
Est-ce que ça va suffire à impressionner, intimider Vladimir Poutine, qui, on le voit maintenant, s'attaque à Odessa. On voit bien que là, depuis 2-3 jours, il y a une intensification des combats. Est-ce que ça peut le faire reculer, l'intimider ? Vous qui l'avez rencontré, vous avez rencontré,
oui,
Vladimir Poutine.
Bien sûr, oui.
Est-ce que vous connaissez sa personnalité ? Est-ce que vous pensez que ça peut le faire changer, cette mobilisation européenne que vous dites plus importante ?
Mais c'est pas que je l'ai dit, c'est qu'elle est une réalité. L'Europe, c'est aujourd'hui 240-250 milliards d'euros par an qui sont dépensés en défense. On a tous décidé, notamment les 23 États membres qui sont à la fois membres de l'Alliance Atlantique, donc d'augmenter à 2% nos dépenses de défense. Certains y sont déjà. Hein, la Pologne est
2%
à 4.
2% de leur PIB.
Du PIB, la Pologne est à 4, la Grèce à 3. Donc, lorsqu'on sera, et ça va être...
Oui, mais la Russie est en économie de guerre.
Attendez, je vais aller sur ce point. Dans les quelques semestres qui viennent, on va passer de 250 milliards à 400 milliards, il y a 140 milliards de plus qui vont être dépensés. La Russie, l'année dernière, a dépensé 60 milliards pour sa défense. Hein. Je rappelle que le PIB de la Russie, c'est absolument pas péjoratif dans ma bouche. C'est un très grand pays, c'est le plus grand pays du monde. Son PIB, c'est le PIB qui est entre celui de l'Espagne et de l'Italie.
Absolument.
Ce n'est pas péjoratif, c'est une réalité.
Oui, bien sûr.
L'année dernière, la Russie a dépensé 60 milliards pour sa défense. Nous, on va vers les 400 milliards. Donc, est-ce qu'on a les moyens? Mais bien entendu.
Oui, on a les moyens, mais on est assez divisé.
Oui,
on reste chacun crispé sur nos armements. Il n'y a pas vraiment
C'est pas vrai.
Et puis l'argent, on l'a pas. Il va falloir faire un emprunt pour obtenir cet argent-là.
Attendez. Beaucoup de questions.
Non, mais moi, ma question, c'était est-ce que ça peut intimider ou faire reculer Vladimir Poutine?
Mais il ne regarde que ça. Vladimir Poutine ne regarde que les rapports de force. Donc, il essaie d'abord de créer les conditions pour nous diviser. Alors ça, il le fait depuis maintenant 20 ans, depuis qu'il est au pouvoir. Il n'aime pas le projet européen, parce qu'il estime que le projet européen, lui qui est évidemment à la tête d'un autocrate, on l'a rappelé tout à l'heure, du plus grand pays de la planète...
Il disait
qu'effectivement la Russie, c'est comme un océan, et un océan, ben, sur la grève, ça va, ça vient, et donc la notion de frontière, pour lui, est une question qui est tout à fait particulière. En quelque sorte, il ne reconnaît pas les traités internationaux, il ne voit au fond que ce qu'il arrange au gré des situations, et on le vit, hélas, tragiquement, désormais, en Ukraine. Maintenant, qu'est-ce qu'il regarde? Ben, il regarde les rapports de force. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il y a un projet, qui est un projet européen, où on est dans une situation qui est nettement supérieure, évidemment, à celle de la Russie en matière de dépenses militaires, et aussi de capacité industrielle. Donc, il faut évidemment accélérer tout ça. Vous savez, en Europe, on sait tout faire.
On accélère, donc ça veut dire, est-ce qu'il faut en passer par un grand emprunt pour pouvoir financer
cette guerre et aider l'Ukraine?
Il y a d'abord,
tout ce que je vous ai dit sur les munitions, les industriels l'ont fait de même. Maintenant, on accélère en remettant de l'argent en complément, eh bien on veut faire la même chose. Les industriels commencent à accélérer ensemble, et donc la proposition qui a été discutée et approuvée au Conseil vendredi, il y a donc deux jours, elle nous permet désormais d'avoir la possibilité donc d'offrir aux industries de défense un financement supplémentaire pour accroître donc l'appareil. Donc pour l'instant on est à 1,5 milliard, mais on va utiliser, ça a été proposé, les avoirs gelés russes qui génèrent...
Les avoirs ou les intérêts des avoirs?
Les intérêts des avoirs gelés russes.
Et donc, ça rentre en opérationnel quand?
Ça, on va le faire très très vite. Mais vous savez,
pardonnez-moi, je vais remettre un peu les choses au clair, parce que je pense que c'est plus très clair pour les auditeurs. Donc, il y a des avoirs à hauteur d'à peu près 200 milliards russes, et il y a 3 milliards de ces avoirs russes qui vont être utilisés par les 27 pour financer
donc l'augmentation donc des capacités industriel. Et puis donc ça monte significativement. Ils nous attendent pas, ils le font en parallèle, mais c'est un signe très fort que nous envoyons. Évidemment, on va commencer à créer également des stocks stratégiques, c'est-à-dire lorsqu'on va passer une commande, par exemple parce qu'on a besoin de canons César ou de missiles hypersoniques, on va se donner les moyens également de créer un stock supplémentaire. C'est ce que font les Américains, ils appellent ça le FMS. Donc on va faire un EU FMS, donc des stocks supplémentaires pour pouvoir intervenir en tant que de besoin sur des situations qui seraient des situations non anticipées. Donc oui, ce mouvement se met vraiment en route.
Et derrière,
vous avez raison.
Le grand emprunt.
Derrière, donc le Conseil a demandé, et je m'en félicite parce que c'était une proposition que nous avions mise sur la table, donc à la Commission de revenir en juin avec une proposition pour avoir des financements complémentaires. Alors moi, je les ai évalués à 100 milliards, donc maintenant, on va les spécifier, on va rentrer dans le détail pour dire pourquoi j'estime qu'il faut 100 milliards, 50 milliards pour défendre tout ce qu'on appelle nos espaces contestés, le spatial, le cyber, le maritime, l'aérien, mais également 50 milliards pour accroître cette accélération que je décrivais tout à l'heure, donc de l'appareil de défense. Donc ça, on revient en juin là-dessus. C'est donc une avancée tout à fait majeure qui a été faite. Entre-temps, il y a des financements complémentaires. On vient d'en parler avec ceux
les 3 milliards,
plus le 1,5 milliard, qui nous permettent d'accélérer. Donc oui, on se donne les moyens. Je dis, voilà.
Quand vous parlez des 100 milliards,
d'aller très très vite et d'accélérer notre soutien, et puis aussi pour nous, pour notre propre sécurité.
Mais quand vous parlez des 100 milliards, vous parlez du possible futur grand emprunt, parce que je sens bien que vous n'avez pas envie d'utiliser ce mot-là.
Non, pas du tout.
Pourquoi, ça pose un problème ou pas?
Non, pas du tout, puisque vous avez raison de me rappeler sur ce point, puisque c'est le deuxième volet,
oui.
C'est qu'on va aussi aussi proposer des solutions pour le financer.
Vous allez proposer, mais là, pour le moment, il y a
c'est
une
coincé. Réponse.
Oui, l'Allemagne et les Pays-Bas sont contre.
Oui, mais ça,
peut-être
oui,
même
mais,
Belgique.
Mais ça, c'est notre projet, ça c'est l'Europe. Bien sûr, il y avait des réticences aussi lorsqu'on a proposé le grand emprunt pour répondre aux conséquences de 750 milliards d'euros de la crise du Covid. Mais après, on avance et je vois que les lignes sont en train de bouger, puisque désormais, il y a un consensus pour nous demander, nous saisir de cette question. Donc, on va revenir, évidemment, et je vais revenir avec mes équipes, avec des propositions.
Et est-ce
donc,
que vous n'êtes pas un éternel optimiste de la cause européenne et est-ce qu'il n'y a quand même pas un vrai risque à chaque fois on prenne des décisions mais toujours avec un petit peu de
retard. Eh bien, écoutez, l'expérience désormais que j'ai pu acquérir me démontre que à chaque fois, on a réussi. On a réussi pour le Covid. On est devenu le premier continent, la pharmacie du monde, alors qu'on était nulle part avant. On a réussi à avoir un endettement commun. On a réussi à avoir 100 milliards de projets maintenant de semi-conducteurs. Et entre-temps, qu'est-ce que je vois ? On est une démocratie. Hein. On n'est pas une autocratie. Mmh. On est une très grande démocratie continentale. C'est difficile d'être une démocratie. Mais nous, on avance, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Eux, ils n'avancent pas. Leur démocratie, ils ne savent pas la faire fonctionner. Eh bien, voyez-vous, la nôtre, même si elle prend un petit peu de retard, elle avance.
C'est une attaque très dure contre les États-Unis.
Mais non, c'est un constat. C'est un constat. Les États-Unis, aujourd'hui, ils sont bloqués. La Chambre.
Par le Sénat.
La Chambre des représentants est bloquée par le Sénat. Et donc, ils ne peuvent rien faire passer. Eh bien, nous, voyez-vous. À 27, on y arrive.
Thierry Breton, est-ce que l'Union européenne aide vraiment l'Ukraine quand elle décide de plafonner les importations agricoles ukrainiennes ? Là, c'est ce qui est en train de se passer. On a décidé d'augmenter les droits de douane sur le poulet ukrainien, alors pas seulement sur le sucre, sur les œufs, sur le maïs, etc. Quand on veut réduire ces importations, est-ce que ça aide l'Ukraine ou pas ?
Mais il faut évidemment aider l'Ukraine, mais il faut évidemment le faire aussi, donc en fonction de, je dirais, de nos propres intérêts et de ceux de nos agriculteurs. Donc, vous avez vu que sur ces questions, notamment sur le poulet, sur le sucre, sur les œufs, on a repris maintenant les chiffres de 2021-2022 pour les qualités. Donc il y a un certain niveau qu'on accepte, et puis au-dessus, eh bien, on ne l'accepte pas. Ça donne évidemment de la marge de manœuvre pour l'Ukraine, mais ça permet à nos agriculteurs
Ça veut dire que les agriculteurs, finalement, sont plus importants qu'une victoire contre Poutine ?
Non, on a trouvé un bon équilibre, je crois. On a encore une fois, on n'a pas, pardon cette expression un peu triviale, on n'a pas ouvert les vannes. On a mis des barrières, on a défini un quota, clair, qui est un quota qui a été acceptable par rapport à notre situation à nous, mais voilà, au-delà, on sera ferme.
Mmh. On parle du CETA avec vous, Françoise ?
Oui, alors, il y a toute une branca en France, une coalition assez spéciale entre le Parti communiste, la droite, pour dire arrêtons le CETA. Vous comprenez, vous, cette attitude ?
Donc le CETA, c'est le traité de libre-échange avec le Canada.
C'est le traité de libre-échange avec le Canada qui est négocié depuis maintenant des années. Il avait été commencé du reste sous Sarkozy, Hollande, et tout le monde était très enthousiaste pour évidemment faire en sorte qu'on puisse bénéficier mutuellement du marché canadien et du marché européen dans certains secteurs clés.
Et le Sénat a voté contre cette semaine.
Et le CETA donc, a été donc, mis en place à partir de 2017, donc, et maintenant il faut le ratifier par pays. Ça a été ratifié, je le rappelle, par l'Assemblée nationale en France. Ça a été ratifié par un nombre très important de pays. Il y en a encore d'autres qui sont en cours de ratification. Mm-hmm. Le Sénat devait le faire, donc je ne vais pas rentrer dans la politique intérieure française.
Non, mais vous comprenez, vous, qu'au fond, obligé, vu les rapports de force actuels, de se protéger et de faire du protectionnisme.
Je vais dire deux choses là-dessus. D'abord, pas commenter trop longtemps la politique intérieure française. Du reste, une fois n'est pas coutume, je vais citer Claude Malhuret, qui est un sénateur. J'ai vu ça l'autre jour.
Sénateur centriste.
J'ai trouvé qu'il avait fait une petite vidéo intéressante sur les réseaux. Et je vous invite à la regarder, la façon dont il a considéré lui-même cet acte qu'il qualifie d'acte politique. Maintenant, en ce qui me concerne, je voudrais dire uniquement que le CETA, ça a été, puisqu'on a maintenant 7 ans de recul, hein, puisqu'il est en fonctionnement depuis 7 ans, il doit être ratifié, il est en cours de ratification.
Si la France ne le ratifie pas, si le Parlement français ne ratifie pas, qu'est-ce qui se passe ?
Ça va continuer à cheminer, il y a tout un tas d'options qui vont continuer à être mises en œuvre. Mais je voudrais juste dire à nos auditeurs que ça a été une capacité de multiplier par 3 l'exportation de nos produits agricoles, en particulier du fromage, en particulier du vin, en particulier de tous les produits transformés.
Ça n'a pas convaincu les sénateurs, ça, en tout cas.
Oui, mais parce que, vous savez, Le problème, c'est que j'ai cru comprendre, je connais un tout petit peu aussi la politique de mon pays. J'étais ministre, donc si on, j'ai compris qu'on avait utilisé une niche parlementaire, c'est-à-dire que c'est un groupe politique a la possibilité donc d'utiliser cette capacité dans un temps limité. Donc le temps limité, il faut que ce soit fini, c'est un peu comme Cendrillon. Il faut qu'avant minuit, sans ça, voilà. Bah, alors il a fallu faire dans ce temps limité. Est-ce que dans ce temps limité, on a pu regarder tous les chiffres? Ces chiffres, encore une fois, en particulier, il y a la question du bœuf. Bon. La question du bœuf, donc le CETA a autorisé 50 000 tonnes, et au fond, les Canadiens ne l'ont absolument pas utilisé. Parce que c'est vrai qu'au Canada, il y a encore l'utilisation d'hormones de croissance, qui sont interdits, donc les Canadiens ne l'ont pas fait. Et ils ont eu raison, il n'y a eu que 1 600 tonnes qui ont été exportées, alors que nous, on est passé de 2 millions de tonnes de notre côté, dans cette filière, à 14 millions.
On ne va pas se noyer sur les chiffres,
ce qui est intéressant, c'est que peut-être que ces chiffres aient pu être échangés, ils ne l'ont pas été, on va continuer.
Mais on sent bien que le contexte a changé sur les traités de libre-échange. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faut décréter un moratoire sur ces traités de libre-échange?
C'est une très bonne question, si vous permettez, parce qu'effectivement, ce n'est pas un accord de nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est maintenant des clauses miroirs.
Rappelez-nous ce que c'est.
Les clauses miroirs, c'est-à-dire que ce qui est imposé à nos propres agriculteurs, doit être imposé également à ceux des pays donc qui vont
avec lesquels on
qui vont exporter vers nous. Ça, c'est la clause miroir. En fond, on s'impose les mêmes règles. C'est du bon sens désormais. Mm-hmm. Et puis aussi, pour nous, on a des critères particuliers environnementaux et en particulier pour tenir nos objectifs, en particulier nos objectifs climatiques. Et donc, on veut là aussi que nous, on se les impose. Et ben, il faut que ceux qui vont bénéficier de notre marché intérieur puissent avoir les mêmes. Ça, c'est les clauses, c'est les accords de nouvelle génération. C'est ce qui ne figure pas dans le Mercosur, et c'est pour ça qu'on est un certain nombre, le président de la République, la France, mais d'autres, et moi, à titre personnel, on est contre le Mercosur tel qu'il est conçu aujourd'hui. Mais voyez-vous, derrière ça, ça pose une vraie question. Au fond, tous ces accords de commerce, on parle du CETA, il a commencé à être négocié sous Nicolas Sarkozy. Bon,
il aboutit sous Hollande, et on l'applique sous Macron.
Et vous voyez, au fond, c'était pas le même monde. Donc, et c'est ce qu'on est en train de dire, là, tous.
Moratoire ou pas?
Donc, en fait, c'est pas moratoire, c'est au fond réinventer ces nouveaux accords par rapport à la nouvelle problématique. C'est quoi les nouvelles problématiques? C'est la réciprocité, l'effet miroir. C'est le fait que nous sommes engagés désormais dans une transition énergétique qui est absolument indispensable, et il faut évidemment que ceux qui bénéficient du marché intérieur aient les mêmes contraintes. C'est qu'il faut également que nous ayons de la souveraineté de plus en plus, la résilience, de l'autonomie. Et donc, il faut que, ceux qui sont en charge, et notamment de la mise en œuvre de ces accords commerciaux, et notamment pour la prochaine commission, intègre désormais les nécessités stratégiques qui sont les nôtres, et aussi les nécessités que nous avons sur notre marché intérieur. Pour l'instant, je vais vous le dire très franchement, j'ai encore le sentiment, y compris du reste, c'est pas une critique, c'est une constatation à la commission, que on est encore en train de peut-être de gérer ces accords un petit peu en ayant plus le regard dans le rétroviseur que par rapport à ce que je viens de dire. Voilà, il va falloir adapter tout ça.
Donc il faut faire les choses, j'ai l'impression, différemment, c'est-à-dire que Ursula von der Leyen n'a pas forcément toujours bien géré tout ça.
Bah en tout cas, il faut là sur ces accords, je crois vraiment qu'il va falloir le faire comme je viens de le dire.
C'est-à-dire qu'est-ce qui est mal fait par Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission européenne?
Il faut impérativement désormais que ces grands accords internationaux soient faits pour soutenir le marché intérieur, en soutien du marché intérieur, et non pas, je dirais, ex nihilo.
Je vous taquine avec elle, parce que vous l'avez quand même un petit peu critiquée, Ursula von der Leyen. Vendredi, Emmanuel Macron n'a pas voulu officiellement la soutenir pour éventuellement un second mandat, puisqu'elle est candidate à sa succession. Est-ce que vous l'avez perçu comme un désaveu de la part du président français?
Mais le président, je ne vais pas commenter ce que dit le président, mais je peux peut-être commenter ce que j'ai dit moi.
Oui, n'hésitez pas.
Et j'ai l'impression que c'était très proche du reste. C'est un peu ce que
vous êtes sur la même ligne.
Je crois pouvoir vous le dire. C'est ce que vous avez perçu à juste titre, Madame Bécard, à l'instant. Oui, la question, d'abord, c'est pas une critique, c'est une constatation. La seule constatation que j'ai pu faire, c'est que d'abord, Ursula von der Leyen a indiqué qu'elle était candidate à sa...
Soutenue par le PPE, son parti.
Alors, qu'elle était candidate à être à nouveau présidente de la Commission, ce qui est évidemment parfaitement légitime, son droit, c'est le plus strict. Mais dans l'histoire de nos institutions européennes, depuis 1958 qu'existe la Commission européenne, il y a eu deux présidents qui ont voulu se représenter, donc comme elle, aujourd'hui, légitimement, c'était Jacques Delors et c'était José Manuel Barroso. Et les deux ont veillé, jusqu'à la fin de leur mandat, à être complètement neutre, parce qu'évidemment, quand on est président de la Commission, on est neutre. Le président de la République l'a rappelé du reste vendredi à sa conférence de presse.
Vous la trouvez pas suffisamment neutre ?
On est au-dessus des partis, on est au-dessus des pays. Et donc, c'est la première fois que nous avons une présidente qui a décidé donc d'être à la fois présidente de la Commission, mais aussi
ça veut dire que vous craignez qu'elle soit aux mains du PPE qu'elle ait un mandat beaucoup plus à droite que celui-ci.
Tête de liste également d'un des partis conservateurs, donc qui est le PPE, le parti européen. Alors qu'elle est en même temps présidente de la Commission, il va falloir gérer tout ça avec beaucoup de rigueur.
Audrey.
Mais derrière, oui, elle a fait le choix d'être désormais la, comme on dit, Spitzenkandidate dans notre jargon, c'est-à-dire la tête de liste, donc des conservateurs européens. Alors je rappelle pour nos auditeurs que derrière, en fait, c'est le Conseil européen, c'est les chefs d'État qui proposent le ou la présidente future, mais ils ne font que la proposer, c'est le Parlement ensuite qui la vote. Donc,
en voilà, fonction des rapports de force qui sortent des élections.
Et également de la capacité donc, à créer une coalition et donc d'être un peu au-dessus des partis. Donc on verra ce que le Parlement décidera, si jamais c'était elle qui était choisie.
À qui pensez-vous ? Voilà.
Ma question va être beaucoup plus franche. Est-ce que vous y pensez sérieusement ?
Non, mais c'est absolument pas la question.
Ah bah c'est un petit peu quand même. Thierry Breton.
Non, la question n'est pas celle-là. Vous savez, on est en démocratie. En démocratie, on vous donne un bail. Moi, j'ai eu un bail de 5 ans. Ce bail, des fois, on vous le redonne, des fois pas. Ça s'appelle la démocratie.
On a le droit d'avoir de l'appétit, de l'ambition et de souhaiter devenir le président de la Commission
évidemment,
européenne.
Évidemment, c'est différent. On peut estimer qu'on est propriétaire de sa fonction, de son job. C'est pas le cas des démocraties. Et moi, je suis très attaché au respect de la démocratie, vous l'avez compris, et de la gouvernance.
Thierry Breton, qui est avec nous jusqu'à 13h sur France Inter et France Info. Je voudrais vous faire écouter la présidente de l'Assemblée nationale qui revient sur ce qui a été l'un des grands sujets de la semaine. Comment réduire le niveau de notre dette et de nos déficits. On l'écoute, elle a une proposition à nous faire, c'est Yael Braun-Pivet.
Moi, je suis partisane de regarder lorsqu'il y a des super dividendes, des super profits, des rachats d'actions massifs par les entreprises. Je crois que nous pouvons entamer la réflexion pour savoir s'il n'y a pas là, de façon exceptionnelle, une capacité que nous pourrions avoir à augmenter les recettes de l'État. Il faut que nous en discutions collectivement.
Bonne proposition ou pas, Thierry Breton, taxer les super profits des entreprises ou les super dividendes ?
La question de la dette est une question, vous l'avez du reste rappelé tout à l'heure au début de notre entretien, est une question absolument essentielle et vous savez que c'est une question qui m'a toujours...
Ancien ministre de l'économie des
finances. Ministre de l'économie de Jacques Chirac, vous aviez commandé le rapport Pébro pour alerter les Français en disant stop à la dette. Et vous avez vu, on en est
à plus qu'on peut dire, si vous permettez aussi, Madame Fassot, puisque vous faites référence à cette période, c'est la seule période où en plus nous avons baissé l'endettement de la France, c'était ma politique.
Bon, est-ce qu'il faut taxer les super profits pour revenir à cette question ?
Mais donc, puisque j'ai baissé l'endettement de la France, c'est 1000 petits ruisseaux qui permettent de le faire. Et je ne l'ai pas fait comme ça quand j'étais en activité moi-même. C'était 1000 opérations qu'il faut faire. Alors peut-être celle-là, mais elle ne suffira évidemment pas.
Ah, vous ne fermez pas la porte alors.
Mais encore une fois, c'est une démarche qu'il faut engager. Mais derrière ça, je voudrais peut-être, si vous permettez, dire un mot sur cette question qui est absolument majeure de l'endettement. D'abord l'endettement, c'est vrai, lorsque j'ai quitté, Nicolas Sarkozy a augmenté l'endettement de 600 milliards, c'est-à-dire en 5 ans.
3 000 milliards aujourd'hui la dette française.
Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, ça n'a pas commencé, voilà, malheureusement. Alors, il y avait la crise, mais il y avait la crise des deux côtés du Rhin. Les deux côtés du Rhin, ils n'ont pas augmenté. Donc évidemment, c'est tout ça maintenant qu'il faut gérer. Mais il faut le gérer pourquoi ? D'abord parce que c'est nos enfants. Mais c'est ce qu'ils vont le payer, parce que c'est une dette. Mais c'est aussi parce que ça obère notre capacité à intervenir, puisque, évidemment, avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça va être le premier budget hein, de l'État. Et puis, au fond, derrière, au niveau européen, puisque c'est de là dont je parle moi-même, au niveau européen, ce qui est très important, c'est que l'ensemble des pays, lorsqu'ils s'expriment, bien finalement, ils apportent une contribution au projet européen. Alors, il y a la dette. C'est vrai que quand vous êtes très endetté par rapport à d'autres, ben vous avez moins de capacité à parler. Mais il n'y a pas que la dette financière. Je parle aussi de la dette, on a parlé beaucoup de défense au cours de notre entretien. Mais il y a des pays qui ont dépensé 2% ou pratiquement 2% depuis 2000 pour leur défense, c'est-à-dire aussi pour la défense européenne. D'autre part, je pense à l'Allemagne en particulier. Ben, si l'Allemagne avait dépensé comme les autres en sa défense, sa dette elle aurait augmenté de 400 à 500 milliards. Mais c'est pas la seule. Donc, il faut réajuster par rapport à sa capacité d'avoir contribué au projet européen. Alors moi, j'ai calculé tout ça. Donc j'ai maintenant, de façon très précise, la dette évidemment financière, mais j'ai aussi les dettes de défense. Et puis il y a une troisième dette qui est importante, c'est celle du comportement des États membres par rapport à leur émission de CO2. Ben, c'est curieux parce que les pays dits frugaux, c'est eux qui émettent le plus de CO2, deux fois plus que les pays dits Club Med. Donc derrière, on peut mettre un chiffre, avec le prix des ETS, et quand vous ajustez la dette financière, la dette carbone et la dette de défense, ben les systèmes sont beaucoup plus équilibrés. Pourquoi je dis ça ?
Ça veut dire que il faut revoir
Ça veut dire qu'il ne faut pas uniquement utiliser... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, évidemment, balayer devant sa porte, c'est pas du tout ce que je dis, mais ça veut dire qu'il n'y a pas un bon élève en Europe. On a tous fait des choses bien. Par exemple, la France a fait très bien en défense, elle continue. La France a fait très bien en émission de CO2, notamment grâce à son parc nucléaire, elle continue. L'Allemagne a fait très mal en CO2. L'Allemagne a fait très mal en défense. Donc voilà.
Mais les agences de notation, elles vont voir les choses comme vous ou pas?
Je parle pour avancer ensemble en matière de projet politique. Oui. C'est extrêmement important, encore une fois, de regarder les choses globalement. Maintenant, ensuite.
Mais la note des agences de notation, elle est importante aussi.
Bien sûr qu'elle est importante, mais ça ne m'appartient pas de la commenter.
Elle risque de baisser ou pas, à votre avis?
Je viens de vous dire encore moins de la prévoir.
Athos. Oui, Audrey, Outa, je vous en prie.
Je voulais vous demander aux États d'être plus disciplinés et effectivement de mieux se comporter par rapport à leurs dettes, mais en même temps, vous ne vous interrogez pas sur les grandes entreprises, les grands groupes industriels qui, en Europe, font souvent du profit, ne payent pas toujours leurs impôts en Europe. Finalement, on a l'impression que vous êtes plus souple vis-à-vis de ces grandes entreprises que ne sont, par exemple, les Américains vis-à-vis de leurs propres entreprises.
Encore une fois, c'est pas moi qui suis responsable je l'ai dit tout à l'heure, dans un projet comme celui qu'on vient d'évoquer à l'instant, c'est plus qu'un projet, une démarche pour réduire notre endettement, ce qui est très important. Du reste, pas qu'au niveau français, au niveau européen, on est trop endetté au niveau européen. Et ça obère évidemment notre capacité d'intervenir.
Est-ce qu'il n'y aurait pas d'argent à aller chercher auprès de ces grands groupes industriels
C'est certain, que tout ce qui concerne la fraude fiscale l'évitement. Et quelque chose qu'il faut regarder évidemment avec attention. Je le faisais du reste moi-même quand j'étais ministre.
Thierry Breton, est-ce que l'État français aura les moyens éventuellement du coup de racheter, de nationaliser s'il le faut, votre ancienne entreprise Atos qui est aujourd'hui en grande difficulté financière?
Écoutez, là, je n'ai absolument aucun commentaire à faire, si ce n'est peut-être un mot, si vous le permettez. Lorsque j'ai quitté cette entreprise il y a maintenant 5 ans, elle était leader dans beaucoup de domaines, cybersécurité, supercalculateur, cloud. Je le dis très clairement, elle avait un endettement nul, c'était du reste redit par l'entreprise quelques mois après que je l'ai quitté, un endettement net nul. Bon, après, il y a des choix qui ont été faits. Je sais qu'il y a eu malheureusement une tentative d'OPA sur un très grand groupe qui a enclenché, je dirais, une désescalade boursière, mais j'ai pas de commentaire à faire. Ce que je sais, c'est que il y avait, lorsque je l'ai quitté, des compétences exceptionnelles. Je crois qu'elles sont encore là. Il y a des femmes et des hommes formidables qui continuent à se battre. Donc c'est une entreprise dont j'espère qu'on saura la sortir de la situation
dans laquelle elle est deux ans après mon départ. 3 milliards d'euros de dette. Est-ce que malgré tout...
Alors qu'il n'en avait pas quand j'ai quitté.
Mais est-ce que malgré tout, votre politique très ambitieuse d'acquisition, notamment au moment où vous êtes resté 10 ans à la tête de cette entreprise, ce sera ma dernière question, est-ce que cette politique ambitieuse d'acquisition a pu fragiliser l'équilibre financier?
4 acquisitions en 10 ans. Capgemini en a fait 5. 5 milliards d'acquisitions, toutes financées. Capgemini, pendant le même temps, a fait 5 acquisitions en intégrant 100 000 personnes supplémentaires. C'est ce secteur qui veut ça. Mais la différence, c'est que moi, par rapport à la dette, toutes les acquisitions qu'on a faites, elles ont toutes été autofinancées. Et lorsque je quittais l'entreprise, non seulement il y avait un endettement nul, donc on ne peut pas dire que c'est des acquisitions qui ont créé quoi que ce soit, et la notation de l'entreprise était BBB+. Elle n'était que BBB pour Capgemini.
Donc vous n'avez pas de responsabilité dans la situation dans laquelle est aujourd'hui cette entreprise, qui est importante.
Mais je n'ai pas de commentaire à faire, sauf celui que j'ai fait. Je ne sais uniquement quelle était l'entreprise lorsque je l'ai quittée. Et voyez-vous, Madame Bécard, j'avais pas du tout imaginé que je la quitterais un jour. Bien sûr, un jour oui, parce qu'on n'est jamais éternel. Mais j'avais pas imaginé que je serais commissaire. Mais voilà. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'elle a continué à très bien très bien travaillé pendant près de 2 ans après mon départ. Mmh. Après, il s'est passé autre chose.
Sur des compétences très stratégiques, hein, puisqu'elle assure le cyber, elle assure la sécurité également, notamment là, à l'occasion des JO. Une question très très courte, Audrey.
Juste, est-ce qu'on protège assez bien, justement, ces entreprises qui sont hautement sensibles est-ce qu'on sait assez bien les protéger contre des intérêts privés qui ne sont pas toujours respectueux de nos règles ?
Ben, on a des instruments pour ça, hein. On a des instruments et on les utilise d'une façon générale, en regardant évidemment, notamment pour les entreprises qui voudraient faire des acquisitions, intervenir sur le marché intérieur, voir si ces entreprises bénéficient notamment de soutien d'État. On a des instruments et on les utilise aujourd'hui.
Merci Thierry Breton. Alors vous restez bien sûr avec nous, il est le temps. C'est le temps d'accueillir notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Karine Bécard.
Prenez place, tranquillement. C'est pas si simple de s'installer sur ces chaises qui sont si hautes. Vous avez raison. Bonjour, Roger Su. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de questions politiques. Vous êtes sociologue, professeur à l'Université de Paris, administrateur du mouvement associatif et président également du comité d'experts de recherche et solidarité. J'espère que j'ai rien oublié. Roger Su, dans votre dernier ouvrage qui vient de sortir, Pourquoi sommes-nous si mal représentés aux éditions Les Liens qui Libèrent, vous revenez sur ce désamour de plus en plus grand, de plus en plus important entre les électeurs et leurs représentants. Et vous expliquez que cette question de la représentation politique ne se réglera pas par le haut, puisque c'est précisément de là d'où vient le problème. Vous pensez qu'il se réglera par le bas, autrement dit par nous, c'est-à-dire par les citoyens que nous sommes. Alors d'abord, pour commencer, expliquez-nous cette crise de la représentation, comme on a l'habitude de l'appeler, elle date de quand précisément ?
Elle vient de loin, puisqu'elle vient finalement d'une fracture qui s'est élargie entre la société civile et son évolution et le monde politique. Et pour le dire vite, il y en a un qui a énormément évolué, tellement évolué d'ailleurs qu'on a du mal à le suivre, qui est la société civile, et l'autre qui est relativement immobile. Et donc la fracture s'est élargie. Alors qu'est-ce qui a évolué ? Je vais juste pas faire de grandes théories, mais
allez-y, on est là pour vous entendre.
Donner 2 exemples. Mm-hmm. France 2 organise un grand concours des drag queens. Ça, c'est quand même quelque chose qui est inimaginable.
Non, c'est pas une critique.
Non.
Au contraire. c'est quelque chose qui est inimaginable il y a 10 ans. Mm-hmm. Autre chose, peut-être un exemple un peu plus général. On parle d'individualisation dans la société. On a raison de parler de ça. L'individualisation a provoqué une manière de réfléchir l'égalité totalement différente. Aujourd'hui, je vais dire d'une formule, tout le monde se prend pour quelqu'un. Et ça vous donne, au fond, une idée de l'égalité subjective qui rend d'ailleurs les inégalités objectives bien pires, beaucoup plus difficiles. Vous savez qu'elles ont augmenté aux extrêmes. Dans le milieu, ça s'est plutôt compressé. Mais globalement, le ressenti de gens qui se prennent pour des égaux, au fond, fait que ces inégalités sont très, très durement ressenties. Et au fond, j'ai envie de dire que ceux qui ont donné le « là » de ce que la société civile voulait, ça a été les Gilets jaunes. On les a pas bien entendus, d'une certaine façon. Je parle pas des actions, hein, je parle des revendications. Ils ont dit quoi ? Pas de citoyens de seconde zone. Aujourd'hui, moi, mon interrogation, c'est où se trouve la citoyenneté en France ? Où est-on citoyen en France ? À quel moment ? À quel moment ? Et dans quelles conditions ? La deuxième chose, ils ont dit, on veut plus d'égalité, être traité, justement, d'un point de vue de l'égalité. Et la troisième chose qu'ils ont dit, l'expression, elle doit venir du bas. Effectivement, dans une démocratie, excusez-moi, ça paraît être le béaba, c'est-à-dire du bas vers le haut, et c'est pas du tout ce qu'on constate. Du côté du politique...
Vous en parlez peu dans votre livre, hein. Globalement, oui. Sommes-nous bien représentés, mais vous ne parlez pas de la classe politique pour nous expliquer si on est bien ou mal représentés.
Vous savez, moi, tous ceux qui servent la France d'une manière ou d'une autre, c'est respectable. Et donc, moi, je n'ai pas de critique si forte à faire ça du politique. C'est plutôt la fonction politique. Vous voyez, je ne vise pas Macron, je ne vise pas Sarkozy, je ne vise sûrement pas Thierry Breton. Donc, voilà, simplement, ce qui faisait la force du politique s'est beaucoup atténué. C'était quoi ? On peut le dire de manière très simple. La représentation, c'est on sait où on va et on sait comment on y va. On sait plus où on va Et ceux qui prétendent savoir comment on y va, franchement, ils sèment le doute. Et la deuxième chose, c'est que les grandes institutions cardinales de la République, ce qui faisait la cohésion sociale, c'est le travail et c'était l'éducation.
Alors attendez, j'ai envie de faire, évidemment, oui, vu ce que vous venez de dire, j'ai envie de faire réagir le politique qu'on a sur notre plateau. Est-ce que vous ne savez pas où vous allez et comment vous y allez?
Je voudrais rebondir sur un point qui me semble très important dans tout ce que vous venez de dire. C'est que vous avez dit « je suis quelqu'un ». Nos concitoyens ont désormais tous le sentiment, et c'est normal, et c'est bien, qu'ils sont quelqu'un. Et pourquoi ont-ils ce sentiment? D'abord, c'est bien, on est tous évidemment quelqu'un. Mais ce sentiment est nettement amplifié par l'avènement des réseaux sociaux. C'est quoi l'avènement des réseaux sociaux? C'est que chacun désormais n'est pas au bout de la chaîne pour aller, je dirais, se nourrir de l'information qui a été générée en haut. Chacun est son propre émetteur. Chacun est son propre éditeur en chef. Chacun rayonne son information et crée son propre réseau, les followers. Et donc chacun peut désormais être monsieur quelqu'un, monsieur qui s'exprime et qui a aussi toute une population de certains qui vont penser comme lui. Et c'est un peu cette différence qu'il faut maintenant trouver, et on a essayé de le faire.
C'est-à-dire
nous,
comment réussir à jouer collectif
mais
malgré
oui,
tout.
Comment recréer de la cohésion avec cette tout le monde, tous ceux qui nous écoutent vont bien le sentir. On le voit bien désormais. Cette amplification, elle n'est pas qu'en France. Elle est précisément partout, y compris aux États-Unis, dans le monde, effectivement. Donc il faut retrouver comment mettre du politique. C'est ce qu'on a essayé de faire avec la régulation des réseaux, le DSA, le DMA. Comment remettre du politique précisément par rapport à cette nouvelle tendance qui me semble être très forte.
Bonne question. Alors
oui, je dirais pas du politique, je dirais le politique. Parce que le politique doit précéder la politique. Le politique, c'est vous, c'est moi. Et donc, c'est ça qui est extrêmement important. Et dans les réseaux sociaux, il y a un peu de tout. Donc, le problème, c'est comment aller vers quelque chose qui est de l'ordre du civique et de la citoyenneté.
Voilà, comment faire cohésion.
Voilà. Et bien ça...
À travers les associations.
Absolument. Oui, exactement. Mmh. Vous me devancez.
Alors comment?
Il faut quand même réfléchir que c'est l'association qui fait la démocratie, c'est pas l'inverse. Donc si vous reprenez les Grecs, c'est parce qu'ils se chantent associés qu'ils font la démocratie. Et l'association, elle se définit par deux termes, liberté et égalité. Et en 48, il y avait même un politiste, enfin Leroux, enfin peu importe, qui disait la devise républicaine, ça doit être liberté, égalité, association. Franchement, en France, on fait pas grand-chose pour les associations.
Ça dépend quand on regarde les conventions citoyennes. Alors, c'est des associations qu'on groupe, c'est des gens qu'on rassemble. Est-ce qu'on réussit à faire cohésion entre les représentants et les représentés? Est-ce que c'est une bonne formule, les conventions citoyennes? Ça vous plaît ou pas? Il y en a eu deux.
Écoutez,
sur la fin de vie, sur le climat, c'était
bien
ou pas?
Oui. Mieux vaut ça que rien, d'une certaine manière. Mm-hmm. Mais voyez bien que ça part du haut, c'est organisé par le haut, c'est organisé par les organisateurs toujours, et ils ne retiennent et au fond, n'est retenu que ce qui est, quand on prend le climat, je crois que le président Macron avait dit « je retiens tout sans filtre », ça a été extrêmement filtré. Donc je pense que la parole doit être organisée par le bas, par les citoyens eux-mêmes, et ils n'ont pas à être organisés par des formes de grandes messes, quoi, d'une certaine façon.
Alors Audrey et cela, Françoise veulent réagir.
Vous dites cela, mais que lorsqu'on va, nous, sur le terrain en reportage, on se rend compte que les gens nous disent « mais à quoi bon ?» parce que c'est décidé ailleurs.
Oui,
donc
exactement.
Effectivement... OK pour les associations, OK pour se dire que à son niveau, dans sa commune, on peut agir. Mais est-ce que le problème aujourd'hui n'est pas que justement, il y a ce sentiment, et c'est un sentiment que donne parfois l'Europe, que c'est décidé ailleurs, donc à quoi bon s'investir?
Exactement. Donc c'est toute une chaîne qu'il faut reconstituer.
Mais comment reconstituer cette chaîne quand les choses sont concrètement décidées ailleurs? Les gens ne se trompent pas.
Deux réponses. Un sur la citoyenneté, deux sur le politique.
Rapidement.
Sur la citoyenneté, elle se définit par trois choses. Elle se définit par la relation d'association, c'est clair. Donc il faut multiplier les associations et les aides aux associations. Elle est aussi la production du bien commun, parce que la citoyenneté, c'est une action, c'est pas un statut. Donc il faut agir. Mmh. Et elle se définit aussi par, et c'est votre question, par l'articulation au politique, du politique à la politique. Je rappelle cette phrase de Rousseau qui disait « Sans l'association, le contrat social serait un contrat de dupes ». Donc, je crois beaucoup à un projet qui était celui de De Gaulle, qui était celui d'ailleurs sur la... Alors évidemment, il a été battu sur ce projet-là. Comme vous le savez, c'était le référendum sur la régionalisation. Mais il avait eu une très bonne intuition. Il avait dit, attendez, le Sénat, c'est bien. Mais enfin, les forces vives de la nation à travers le Conseil économique et social, c'est très bien aussi. Ne peut-on pas mixer, au fond, cette affaire-là pour en faire une deuxième chambre qui soit aussi importante, aussi forte, et qui prenne le premier mot. Il ne s'agit pas de, substituer aux représentants, bien entendu. Le dernier mot appartient aux représentants. Mais le premier mot doit émaner de la société civile.
Voilà, on va en rester là. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci Roger Su. Le titre de votre dernier livre, « Pourquoi sommes-nous si mal représentés aux éditions Les Liens qui libèrent ?» Merci Thierry Breton d'être venu ce dimanche dans Questions politiques. Merci à toute l'équipe, Fabienne Lemoyle, à la rédaction en chef, à Amaury Baucher, à la programmation. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de week-end.